Grand, une présentation de l'auteur né à Bordeaux en 1910 dans un milieu modeste, Jean Anouilh ne fit pas de longues études supérieures. Il fit un an et demi à la faculté de droit, travailla pendant 2 ans dans une maison de publicité et quelque temps comme secrétaire de l'acteur et metteur en scène Louis Jouvet. C'est chez ce dernier que sa vocation pour le théâtre se confirma. D'ailleurs, la pièce Siegfried de Jean Giraudoux, mise en scène par Jouvet en 1928, déclencha cette vocation. C'est ainsi qu'il décida de ne vivre que du théâtre. En 1932, il eut un premier succès avec sa pièce L'Hermine. À partir de ce moment, il devient très prolixe et écrit plusieurs pièces qu'il classe lui-même en 4 catégories : pièce rose, pièce noire, pièce brillante, pièce grinçante. Les œuvres qu'Anouilh a classées « rose » et « noir » sont pessimistes et se présentent comme une révolte contre tout ce qui porte atteinte à la pureté des êtres. Révolte contre la tyrannie de l'argent qui contraint les pauvres à s'abaisser, les avilie et surtout les humilie, rendant impossible l'amour entre pauvres et riches. Révolte de l'adolescence contre les laideurs de l'existence ou la mauvaise conduite qu'elle favorise. Et contre l'impossibilité d'abolir les flétrissures, de purifier sa conscience pour régénérer sa vie. Dans Antigone, par exemple, c'est la vie elle-même qui est rejetée, comme incompatible avec l'exigence nostalgique de la pureté. Avec les pièces brillantes et grinçantes, la satire de Anouilh devient plus âpre, plus crispée. Il s'en prend sans relâche au mythe de l'amour heureux. Il semble céder à la tentation du théâtre d'idées et critique la situation moderne, l'armée, la démocratie. Grand 2 études d'Antigone à Anouilh et le contexte des années 40 au moment où on jouait Antigone le 4 février 1944. Et la France vivait les derniers mois les plus tyranniques de l'occupation allemande. A faisait renaître l'espoir en l'homme que J. Anouilh a voulu réaliser la grandeur de l'homme sans Dieu et les idéologies à travers la représentation d'Antigone. Comme beaucoup d'autres écrivains, il a décidé de se jeter dans la mêlée, car il ne veut pas demeurer tranquille, les bras croisés avec une attitude d'indifférence face à cet état de fait. Défaite, espoir, déception, n'est-ce pas cela la condition de l'homme? C'est cette lutte qui a valu la représentation d'Antigone, le 04 février 1944, dans un Paris occupé par les nazis. On peut cependant se demander la signification d'une telle œuvre dans un contexte historique apparemment différent de celui gréco-romain qui a beaucoup apporté au monde moderne. Pour comprendre l'œuvre, il est nécessaire de s'interroger sur les sources de l'auteur et pourquoi il est allé à la recherche de Sophocle. C'est un drame profondément émouvant tiré du mythe de Œdipe. Selon la légende Laios, le roi de Thèbes a reçu un présage selon lequel il aura un fils qui tuera son père et épousera sa mère. Jocaste, la reine de Thèbes, pour empêcher la réalisation d'un tel présage, abandonne son fils Œdipe qui vient de naître en plein forêt dans les montagnes, espérant qu'il sera dévoré par des fauves. Il sera recueilli par le roi de Corinthe qui va l'élever comme son propre fils, sans jamais lui révéler le mystère de son origine. Œdipe grandit ainsi dans l'insouciance et le maniement des armes et devient un soldat intrépide, très courageux. Il apprend lui aussi le terrible présage qu'il tuera son père et épousera sa propre mère. Bouleversé, il va fuir ceux qu'il prenait pour ses propres parents, ignorant qu'il courait vers son destin. Dans sa fuite, après une querelle avec un voyageur, il le tue. C'était son propre père. Il ne le savait pas. Arrivé à la porte de Thèbes, sa ville natale menacée par un monstre, le Sphinx, il le tue après un combat et délivre ainsi le peuple du monstre. Proclamé roi par la cité, Œdipe épouse la veuve Jocaste, qui en fait était sa mère. De cette union naîtront 4 enfants, 2 fils, Éthéocle et Polynice, et 2 filles. Ismène et Antigone. C'est seulement après que Œdipe découvre l'horrible vérité. Alors, il se creva les yeux et erra à travers la Grèce, guidé par sa fille Antigone. Le pouvoir étant vacant, les 2 frères décident de de gouverner grâce à une rotation du pouvoir tous les ans. Mais Étéocle refusa de céder le pouvoir à son frère Polynice, et ils moururent tous les deux lors d'une bataille qui les opposa. C'est résumé et interprétation. Le destin tragique de cette famille sur laquelle les dieux s'acharnent va mener leur oncle Créon au trône, car il n'y avait que lui pour le faire. Il décida d'organiser des funérailles grandioses à Étéocle et décrète contre l'organisation de funérailles pour Polynice. Quiconque oserait lui rendre les devoirs funèbres serait mis à mort. C'est avec horreur que les deux sœurs apprennent la grave intention de leur oncle. Antigone se révolte, prend la décision d'ensevelir son frère, quoi que cela puisse coûter. À partir de cet instant, tout se précipite de façon dramatique. Antigone meurt, Hémon, le fils de Créon et fiancé d'Antigone, se tue. Eurydice, la mère de Hémon, se suicide. Seul Créon reste en vie. Face à son destin de chef, la démesure de l'homme a mis en marche la fatalité. L'orgueil de l'oncle et de la nièce a fait des victimes innocentes. On peut alors s'interroger sur le drame de la famille d'Œdipe. Son père Laios a tout fait pour éviter ce destin funeste, mourir. Œdipe aussi a tenté de l'éviter. Ce fut peine perdue. On a comme l'impression que les dieux se délectaient de leur impuissance. Le cours de leurs existences était tracé une fois pour toutes, et quoi qu'ils fassent, ils ne pourraient échapper à leur destin. N'est-ce pas cela la deux EGM? Tous ces hommes et ces femmes qui ont péri sous les bombes, dans camps de concentration et les chambres à gaz, pourquoi sont-ils morts? N'était-il pas possible de dévier le cours du destin qui avait frappé le monde de 1939 à 1945? Jean Anouilh, écrivain engagé dans le combat de son époque, était interpellé par ces questions et son œuvre semble être une tentative d'éclairage sur cette crise qui frappe le monde. C'est résumé séquentiel de l'œuvre Première séquence. Le prologue présente au public différents personnages en résumant leur caractère. Ainsi défile devant nous Antigone, la petite et maigre Antigone, qui pense qu'elle va mourir. Ismène, sa sœur très belle, et l'heureuse Hémon fiancé d'Antigone, et le fils de Créon. Eurydice, femme de Créon, qui n'est d'aucun secours de son mari, la nourrice symbole de l'enfance, et le roi qui médite seul, la difficile tâche de conduire les hommes, le messager et enfin les trois grands auxiliaires du pouvoir. 16. Ismène apparaît et elle est au courant de l'édile de son oncle et la volonté suicidaire de sa sœur qu'elle d'ailleurs de dissuader. Ismène tient à la vie, elle a peur de la souffrance et de la mort. Antigone est certes une enfant qui appelle affection et tendresse, mais cela ne diminue en rien sa volonté de lutter jusqu'au bout. La volonté d'un homme n'attend point le nombre d'années. 5e séquence, nous découvrons Hémon, fils de Créon et fiancé d'Antigone. C'est une scène d'amour émouvante que le destin tragique va encore frapper. 41, 6e séquence. Un garde informe Créon que quelqu'un a enseveli le corps de Polynice. Le roi cherche à étouffer le scandale. « Si personne ne sait qui vivra », dit-il au garde terrorisé. Créon est désemparé, la crise éclate, tout est remis en cause. 7e séquence. Le chœur entre et explique au public sa conception de la tragédie. Renforce l'impatience du public qui veut savoir ce qui va se passer si le coupable sera pris. Les gardes entrent en scène, poussant Antigone. C'est l'explosion, que va-t-il se passer? 8e séquence. Les gardes expliquent les circonstances de l'arrestation de la demoiselle qui apparaît entêtée et cherchant désespérément la mort. Les gardes ne savent même pas l'identité de la rebelle. Leur seul souci, c'est d'exécuter les ordres et obtenir des gratifications. 9e et 10e séquence. Abattu, Créon découvre son nièce menottée aux mains. Immédiatement, il met les gardes au secret. La 10e séquence est la plus importante de la pièce. Elle met face à face l'oncle roi et la nièce rebelle. Elle se déroule en plusieurs phases. Créon est assez calme. Maître de lui-même, il veut étouffer l'affaire au besoin en liquidant les témoins gênants que sont les gardes. Malheureusement, sa nièce refuse tout compromis. Malgré l'impertinence de sa nièce, Créon accuse le sort et s'efforce de sauver cet enfant, la dompter pour ne pas affaiblir son autorité en ce début de règne. C'est une Antigone, hélas, provocante, qui sait où elle va. Toujours calme, Créon apprend à sa nièce qu'il ne veut pas la tuer. Celle-ci lui demande de faire son devoir, qui est de servir, de tuer